Cube Radio.
Germain, sais-tu où j'étais il y a une semaine?
Non, j'en ai aucune idée.
Je sais pas si t'es au courant, mais une petite compagnie anglaise qui appartient maintenant à BMW, qui fabrique des petites voitures qui s'appellent Mini.
Absolument!
Et je sais pas si t'es au courant, tu savais que Mini offre la version 3 portes en version électrique.
Là. Oui, la Cooper SE.
Et puis honnêtement, là, c'est une super auto à conduire, c'est plaisant, c'est rapide, c'est
on retrouve le même plaisir d'une Mini Cooper.
C'est un produit
régulière.
100% réussi, jusqu'au moment où on se rend compte que Mini semble avoir oublié qu'on est en 2021 et qu'Hyundai fait un Kona avec 400 km d'autonomie, parce que leur Mini électrique n'a que 177 km d'autonomie, et ça, c'est optimiste parce que réalistement, j'ai jamais réussi à faire plus que 150, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai fini manquer d'électricité. J'étais à 5 km d'être une tache noire sur la carte de CA Québec. Il a fallu que j'arrête dans une rôtisserie, Germain. Une rôtisserie, gambler sur un choix de chef à savoir si j'allais avoir une cuisse ou une poitrine pendant que mon auto se rechargeait.
Merci de sacrifier la santé de tes artères pour celle de ta santé financière.
Plaisir, Germain. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je me suis dit?
Non, mais visiblement, t'as eu le temps de réfléchir longtemps.
Grand Dieu que je serais content si cette Mini-là avait un moteur à essence pour aider le moteur électrique.
OK.
C'est ça, je pense que les hybrides rechargeables, ben, c'est plus pertinent qu'on pense.
Ben, c'est un compromis qu'on devrait considérer davantage.
Est-ce qu'on part là-dessus?
On part là-dessus parce que là, j'ai le jingle qui me joue dans les oreilles, puis c'est une sacrée longue introduction.
C'est parti!
On y va, on part! Marc-André, l'idée d'une voiture hybride rechargeable est souvent présentée comme étant un compromis, mais à nos yeux, c'est peut-être plus que ça.
Oui, c'est comme si on nous parle de ça comme un entre-deux ou quelque chose qui est temporaire, quelque chose qui est inutile. Ah oui, on a une voiture hybride qui fait juste quelques kilomètres en mode 100% électrique. Pourtant, Germain, quand on sait que le conducteur moyen fait environ 50 km par jour pour aller travailler, là...
Ouais.
Pourquoi se priver de faire des bonnes autos qui peuvent faire ça 100% électrique?
Et que beaucoup de véhicules hybrides rechargeables... Ben, ont justement une autonomie d'une cinquantaine de kilomètres ou un peu plus, ce qui permet de conduire finalement toute la semaine en roulant avec l'électricité et la semaine, si on veut sortir de la ville, quand on peut sortir
oui, quand
de la
on
ville,
peut, oui.
Quand on peut sortir de la ville, eh ben, on le fait avec le support du moteur à essence et au final, on va consommer quelques maigres litres aux 100 kilomètres. Donc, on dépasse à mes yeux le chapitre du compromis.
Puis tu vois, c'est l'espèce d'esprit qu'il y avait derrière la première Chevrolet Volt. Là.
Oui. C'est-à-dire... Et la deuxième, d'ailleurs.
Oui.
Deux voitures absolument formidables qui sont finalement des secrets trop bien gardés parce qu'il y a juste au Québec où cette voiture-là était populaire.
Oui, c'est très dommage parce que, quant à moi, c'était le compromis parfait. Si elle avait eu 100 km d'autonomie... C'est que moi, tu vois, la voiture hybride rechargeable...
On était à 80 km avec le modèle
exact.
De deuxième génération.
Mais tu vois, c'est un...
80, t'as le temps d'aller loin
mais
avant de se recharger.
Oui, mais l'idée, c'est de dire, si on donnait 100 km, les gens moyens auraient pu faire littéralement 100% de leur déplacement quotidien en mode 100% électrique,
ouais.
Sans devoir se recharger au
ouais,
travail.
Mais 100 km dans une journée, c'est beaucoup, là.
Ben, ça dépend. Si tu vis à l'Île-Perrot, par exemple, tu ouais. travailles, disons, en ville, ben, c'est à peu près ça.
Personne ne vit à l'Île-Perrot, Marc-André.
Il y a 35 000 personnes qui vivent sur cette île merveilleuse, alors on peut pas tous vivre en banlieue de Laval à Hunsic, Germain. Là.
Je suis désormais en banlieue dans l'est de Montréal.
Ah, là-bas, c'est une autre histoire, n'est-ce pas?
Absolument.
Mais bon, tout ça pour dire que la voiture hybride rechargeable, tu vois, je sais que c'est un peu exagéré comme comparaison, parce que c'est une auto qui vaut 200 000 $. La Polestar 1,
oui. Okay?
C'est une voiture hybride rechargeable qui est super performance,
oui.
Qui est conçue à la base pour la performance.
Oui, parce qu'on a à la fois un moteur à essence, on a la turbocompression, la suralimentation oui. Et un moteur électrique. C'est toutes les technologies. Il manque juste de l'hydrogène, là.
Non,
t'sais.
Mais...
C'est toute la technologie est là.
Mais elle a surtout beaucoup d'autonomie électrique.
Oui.
C'est ça qui est fascinant. C'est faisable.
Oui.
Puis je sais que là, c'est un drôle de débat à avoir, mais là, les constructeurs sont convaincus que la voiture électrique, c'est le futur, puis OK, tant mieux. Là. Je suis convaincu, moi aussi, que c'est intéressant quand tu as une entrée de garage pour te recharger, quand voilà. Tu as accès à des bornes, mais quelqu'un qui vit en ville, comme à Rosemont, ma soeur habite, où toutes les voitures sont dans la rue, doivent changer de place aux 10 minutes, ils peuvent pas toujours être devant chez eux. C'est quoi le futur pour ces gens-là? Est-ce qu'ils vont mettre des bornes à tous les coins de rue?
Oui,
à toutes
et, les... et je me rappelle, il y a quelques années, on se passait à la réflexion et on se disait, hors Montréal, la voiture électrique, en région, ça va être plus difficile.
Ouais.
Pourtant, finalement, non. Et la voiture électrique croit énormément en popularité hors des grands centres parce que justement les gens ont la possibilité d'avoir les installations chez eux et on sait que la majorité des recharges ben, se font à la maison justement.
Exactement, parce que, tu sais, on disait en région, ah, l'autonomie, c'est un problème là-bas parce que...
Ouais, mais on l'a réglé, le problème de l'autonomie. On est rendu à 400 km.
Exact. Fait que même si tu fais 100 km, là, c'est énorme. Mettons que tu portes ton village, tu fais 100 km pour aller faire l'épicerie, sans revenir, ben, tu vas être correct, tu as 400 km maintenant. Fait que tu peux recharger sur vous, t'es correct. Ouais. Mais si tu vis au centre-ville, ben, bonne chance de trouver une borne, là.
Ouais.
Il va falloir que t'ailles te faire comme moi, t'aller dans une rôtisserie gambler sur une cuisse ou une poitrine, attendre quelques heures.
On a-tu des vies excitantes en 2021?
Ah, la COVID, c'est ça, Germain. Hein? La seule excitation qui te reste, c'est de savoir qu'est-ce que ton choix du chef va te donner. Ben, des fois, t'es une poitrine.
Je parlais de la Volt qui était une voiture absolument géniale.
Ouais.
Il y a une de ses rivales qui, elle, est toujours offerte.
Clarity.
La Honda Clarity. Ouais. Bon, il faut se fermer les yeux parce qu'elle est absolument horrible.
Oh, mais là,
Non, cette voiture-là n'est pas regardable. On va se dire les vraies affaires. On est ici pour ça. Mais une fois qu'on a fait fi du fait qu'elle était laide, eh ben tout va bien. Parce qu'à l'intérieur, c'est super bien aménagé. C'est confortable.
C'est spacieux aussi, mon
c'est
Dieu.
C'est très spacieux. C'est plaisant à conduire. On a une autonomie de presque 80 km, justement. Mais malheureusement, Honda n'est pas très motivé à en vendre.
Il n'y a aucune publicité de cette voiture-là.
Aucune voiture,
savoir,
aucune publicité. Et en plus, les concessionnaires ont de la misère à en obtenir en inventaire. Et on sait qu'à chaque fois qu'ils en rentrent en inventaire, ben, elle est déjà vendue. Bref, si tu rentres dans un concessionnaire Honda demain matin, tu dis, je veux une Clarity, ben, fort probablement qu'on va te dire, ben, j'en ai pas en inventaire, mais je vais en recevoir dans les mois prochains. Bref, il y a une demande qui est plus forte que l'offre en ce moment. Pour cette voiture-là, même si elle est LED, même si elle est sortie il y a quelques années, parce que visiblement, c'est une formule qui plaît à beaucoup de gens.
Tu dis qu'elle est LED, mais bon, ça, tous les goûts sont dans les...
Non, elle est horrible, arrête, elle est horrible.
La beauté est derrière les yeux de celui qui regarde.
Ouais, ben il n'a pas de beauté derrière les yeux de celui qui la regarde.
Ça. Oui, écoute,
Tu dis ça parce que je suis pas beau?
Non, au contraire, moi, Germain, si c'était de moi, j'aurais ton poster dans ma chambre, mais ma conjointe ne serait pas d'accord.
Ça va trop loin.
Écoute, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en ce moment, les manufacturiers sont engagés à 100% vers l'électrique.
Ouais.
L'hydrogène dont on vantait les mérites il y a quelques années à peine, là, ça semble être complètement disparu de la carte.
Ouais.
Il y a juste Toyota qui offre encore une journée.
Et Hyundai avec le Nexo?
Ben encore là, est-ce que tu en vois?
J'en ai vu un. Sur une remorque plateforme, derrière une Toyota Mirai, il y a quelques semaines, et le camion était identifié à un organisme gouvernemental fédéral.
Ouais, il devait faire un test parce que...
Mais bref, cette technologie-là, on l'a complètement écartée.
On sait que le rendement énergétique est pas bon. L'investissement pour créer une infrastructure de distribution est très élevé. Et par le temps qu'on y arrive, les voitures électriques vont avoir 800 km et plus d'autonomie. Ouais. Ça défait un peu le problème.
Et chez Toyota, à cette époque-ci, alors que on vit un peu une pénurie de certaines composantes, on se dit qu'on peut produire davantage de véhicules hybrides et hybrides rechargeables avec les batteries, par exemple, plutôt que d'utiliser toute cette énergie-là pour produire un véhicule électrique, finalement. Et la preuve, c'est qu'on a pour le moment plusieurs véhicules hybrides. On a une gamme qui est très électrifiée chez Toyota.
Oui.
On a beaucoup de véhicules hybrides. On a des véhicules hybrides rechargeables. Et autour du Toyota RAV4 Prime, qui est le deuxième véhicule hybride rechargeable.
Mais 200 d'attente,
oui, effectivement, il est victime de sa popularité, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est une autre question. Visiblement, c'est un véhicule qui est extrêmement populaire. Populaire, pourquoi? Probablement parce que son achat est largement subventionné par les gouvernements.
Il est populaire jusqu'à un certain point. C'est surtout parce que c'est un produit qui est extraordinaire, quant à moi. Tu sais, tu consommes à peu près rien. Tu vas faire 5 litres au 100, 6 litres au 100, puis tu vas 302 chevaux, ce qui est très performant. Les 100% électriques, je le dis, beaucoup d'avantages intéressants. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens semblent mettre ça de l'avant. Mais moi, je reviens à ce que je te disais.
Est-ce qu'on devrait subventionner le véhicule hybride rechargeable?
La vérité, Germain, c'est qu'on sait que l'impact environnemental d'une voiture électrique, là, on n'est pas capable d'avoir des vrais chiffres par rapport à ça.
Non, mais oublions l'impact. Là.
Mais c'est de là que vient la subvention, Germain.
Ouais.
Ils subventionnent parce que l'externalité positive de la chose, c'est de dire on donne de l'argent parce qu'on réduit la pollution.
Oui, mais on en donne au Toyota RAV4 Prime, mais on n'en donne pas autant à son équivalent le plus direct qui est l'Escape PHEV.
Ben là, parce que c'est une question de kilowattheure.
Oui, mais réalistement, on va avoir une consommation qui va être similaire. On a une échelle de prix qui est similaire. Tout est similaire.
L'autonomie est moins intéressante et surtout...
Oui, mais on va consommer moins une fois qu'on va être en essence.
C'est une théorie qui se défend, mais n'oublie pas que quand t'es à la tête...
Donc, t'es en faveur de ça.
je suis en faveur. Je pense qu'il faudrait surtout un programme qui est conséquent avec les réalités. C'est parce que en ce moment, le gouvernement, ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre, il faut qu'il tranche quelque part, tu sais. Oui. Il faut qu'il dise, il faut qu'il mette une ligne dans le sable. Sauf que faire ça, on s'entend que c'est stupide parce qu'effectivement, tu penses que tu démontres un bon point là, qu'en bout de ligne.
Il y a des incohérences.
Exactement. Tandis que si on avait une vraie politique nationale de se dire, bon, est-ce que c'est vraiment bon pour l'environnement des autos électriques? Qu'est-ce qu'on fait? Et oublie pas une chose, là, puis c'est ça qui m'écœure le plus, c'est qu'en ce moment, les gens font beaucoup de calculs en se disant « Ah, ça coûte presque rien rouler électrique, ça me coûte tant à recharger. » OK. La journée que tout le monde est électrique, je vous le garantis, là, qu'ils vont trouver une manière de vous taxer. Tu sais, quand tu mets un litre d'essence dans ta voiture, là, c'est quelque chose comme 35 % du prix là, qui est des taxes qui servent à financer le transport commun. Demain matin, tu demandes aux 4,5 millions de Québécois qui ont une voiture là, d'arrêter de mettre de l'essence. Ça va faire un méchant gros trou dans ton budget provincial.
Absolument.
Il faut que tu cherches cet argent-là. Donc, le prix de l'électricité va monter. Donc, le calcul qu'on fait pour dire que c'est plus rentable de rouler électrique, il peut pas tenir à vitam aeternam. C'est juste ça que
je veux dire. On le fait avec les données financières actuelles.
Ah, c'est ça, mais... Fait que, tu sais, je pense... C'est que c'est tellement complexe en ce moment de... Même juste l'idée de la question environnementale, ça dépend des pays où t'es.
Ouais.
Un pays en Chine où tu roules avec une voiture électrique, c'est l'équivalent de rouler qu'un VUS qui fait 10,8 litres au 100 km parce que t'émets vraiment beaucoup de carbone pour chaque kilomètre que tu fais parce qu'ils font de l'électricité au charbon.
Ouais.
Fait que tant que eux autres sont pas passés à une énergie propre à 100%, comme c'est le cas au Québec, ben là-bas, rouler électrique, c'est pollué pratiquement plus que si t'avais une petite cylindrée. Surtout quand on sait qu'en Chine, ils aiment les petites cylindrées. Là, les environnementalistes vont dire que oui, mais t'enlèves la pollution des villes, t'as pitch en campagne ou les usines, fait que c'est mieux pour la santé humaine, mais ultimement, pour la planète, c'est l'équation est la même, tu sais. Au Québec, on est juste bien placé pour ça. Mais encore là, je sais que j'ai peut-être une mentalité trop survivaliste, weird, là. Mais j'aime pas l'idée de savoir que je dépends à 100% d'un réseau électrique pour pouvoir avancer.
Un réseau électrique qui se bonifie quand même.
Oui, il est bon, Germain. Je suis d'accord avec toi à 100%. Mais disons...
Qui se bonifie et qui s'est beaucoup amélioré. Ouais,
mais deux semaines de crise de verglas encore, là. On est foutu qu'un choix électrique.
Ouais, mais on est rendu au printemps, là. Il n'y a plus de verglas.
C'est pour ça que j'aime l'hybride rechargeable, c'est que je me dis, j'ai une auto électrique.
Tu conserves une indépendance.
C'est ça, c'est que j'ai une auto électrique 90% du temps. Au Québec, je consomme notre bel or bleu, l'hydroélectricité. Et si je dois aller plus loin, oui, je vais brûler un peu d'essence, mais en même temps, pas beaucoup, parce que c'est un moteur qui est super économique. Et tu sais, je regarde des trucs comme ce qu'Infinity fait en ce moment. Ils travaillent sur une technologie qui s'appelle le e-power.
C'est-à-dire, Infinity, ils doivent travailler très fort en ce moment.
Je sais pas ce qui arrive avec eux, mais à l'époque, ils travaillaient encore là-dessus parce qu'il y avait...
On peut pas vous garantir que cette marque va exister au moment où vous allez écouter ce podcast.
Non, parce qu'avec les ventes qu'ils ont en ce moment, c'est difficile. Mais tu vois, eux, leur technologie électrique de transition qu'ils appelaient, c'était de dire, OK, on va avoir un moteur électrique de 400 chevaux, mais ce sera pas une batterie au lithium polluante qui va l'alimenter. Ça va être une petite génératrice qui va être capable de produire les kilowattheures nécessaires à alimenter ces moteurs électriques-là. Et un moteur à essence. On sait que dans un contexte de génératrice, il est plus efficace que dans un contexte où il est connecté à une transmission qui est connectée à des roues. Fait que, quant à moi, c'est une forme d'hybridation, ça, parce que c'est un moteur à essence qui fait
avancer. C'est une combinaison mécanique.
Oui, mais c'est toutes ces choses-là qu'on a balayées de la main pour aller vers le 100% électrique. Puis, je sais pas, c'est pour ça que j'aime l'hybride rechargeable encore une fois, c'est que je trouve que tu es vraiment le meilleur des deux mondes.
Et on a parlé, bon, de la Volt, qui était pas tout à fait une hybride rechargeable, mais essentiellement l'idée.
C'était
là,
le concept, oui.
On a parlé de la Clarity, on a parlé de la Prius Prime, du RAV4 Prime, bon. Mais toujours est-il qu'il y a des véhicules hybrides rechargeables qui sont moins intéressants.
C'est sûr.
C'est le cas, par exemple, du Subaru Crosstrek, hybride rechargeable, qui n'a finalement aucun bon sens. Chez Mini, on a aussi la technologie hybride rechargeable avec la Countryman, chez Volvo, là aussi, c'est assez peu convaincant.
C'est peu convaincant, mais en même temps...
Et c'est vite dépassé.
Ben, c'est ça qui arrive. Mettons que si on dit demain matin, Chevrolet, je veux développer une technologie d'hybride rechargeable efficace, ça va me prendre 5 ans à le faire. Dans 5 ans, Tesla va arriver avec une batterie qui va prendre 2000 km d'autonomie. Tu sais.
Ouais.
Donc, ça veut dire que Kia va avoir une batterie qui fait 800 ou 900 km d'autonomie. Ça va être difficile de ne pas se tourner vers ça. Sauf que ça revient toujours à la question initiale. Comment les pays font leur électricité? Est-ce qu'ils ont le réseau pour distribuer cette électricité-là aux voitures? Et qu'est-ce qui arrive au monde qui vit en ville?
Et pour moi, l'autonomie, oui, c'est une donnée importante. Oui, elle tend à grimper sans arrêt, mais c'est le temps de recharge aussi qui demeure un enjeu.
Si on développe un méga réseau de superchargeurs...
Non, le temps...
Oui, c'est ça. Oui. C'est parce qu'avec un superchargeur, on recharge plus vite. C'est parce que moi, je me mets tout en tête du monde qui vit en ville. Mettons que j'ai une voiture électrique qui est parkée là. J'ai pas accès à une borne. Par contre, si j'ai une auto de 900 km d'autonomie, que je peux recharger pleine en 2 heures, même si je dois prendre ma voiture puis une fois par mois aller me stationner dans une recharge 2 heures, c'est pas si mal, tu sais. C'est juste qu'on n'est pas encore tout à fait là. Je sais pas dans combien d'années on va être rendu là. Puis, C'est un drôle de sujet qu'on a en ce moment, parce que c'est comme dire, il a fallu qu'il y a 10 ans, on investisse dans l'hybride rechargeable, parce que ça aurait été une technologie de transition parfaite. Mais on l'a pas fait. Puis par le temps qu'on le fasse, il risque d'être un peu trop tard. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme la poule et l'œuf un peu.
C'est une bonne idée qui arrive peut-être trop tard.
Exact, mais en attendant, on sait que c'est faisable et bien le faire. Regarde, Toyota, eux, contrairement à toutes les manufacturiers qui semblent dire, nous, en 2030, c'est fini l'essence, Toyota vise 2040.
Oui, 2025, une gamme complètement électrifiée.
Oui,
et pour moi, c'est un premier pas qui est franchement intéressant.
Exact. Puis Toyota démontre, tu sais, par exemple, prends une Corolla hybride, là.
Oui.
Et pas tant plus chère que la vraie Corolla, puis elle va te consommer pas mal moins d'essence. Quelqu'un qui a ça, honnêtement, il va sauver une fortune en essence. Puis ce qui est bien que la technologie hybride de Toyota, c'est qu'elle s'est beaucoup améliorée. Quand t'es dans le trafic, t'es pratiquement 100% du temps en mode électrique.
T'sais. Oui, et c'est excessivement fiable.
Ah, c'est la Prius là, de deuxième génération. Est considéré comme l'une des voitures les plus fiables de tous les temps. Pourtant, on a un moteur Atkinson, on a des batteries reliées à ça, on a quelque chose de plutôt complexe. Mais
oui,
ça
c'était relativement révolutionnaire au moment de sa sortie.
Ah oui, cette Prius-là, c'est...
Et ça inquiétait beaucoup de gens, la durée de vie des batteries, et pourtant, ben ça a prouvé son point avec le temps.
Je sais pas la statistique pour la Prius, mais je sais que pour la Honda Insight, puis ça, c'est un autre débat pourquoi Honda a abandonné ce véhicule-là, qui avait quelque chose d'intéressant, là. Ben après toutes ces années, les batteries sont encore bonnes à 85%, tu sais. Ce qui est vraiment pas mal là, en bout de
ligne. Oui, parce que ça fait plus de 20 ans finalement.
Exact. Puis fait que tu sais, je me dis juste Germain, c'est quand on a des sujets comme ça me fait réaliser qu'on dirait qu'on a échappé la balle au bon.
Ouais.
On a tellement été longtemps à se demander OK, c'est-tu l'hydrogène, c'est-tu l'électricité, que par le temps qu'on arrive
alors qu'on avait entre les mains une technologie hybride et hybride rechargeable qui était très efficace.
Imagine si il y a 10 ans on avait sauté là-dessus, puis que chaque voiture aujourd'hui était hybride rechargeable, genre. Ouais. Ben au lieu on en sauverait tellement de pollution. Imagine toutes les VUS qu'on voit sur la route qui au lieu de faire 11 litres au 100 km, il en ferait 7 ou 8.
Ouais.
C'est con mais calcule-le comme tu veux, ça aurait réduit pas mal les GES là.
Oui, et sur le budget familial, ça fait toute une différence.
Oui, puis peut-être que je pense pas assez aux familles là, mais je pense donc même si je pense à la planète ou à l'environnement en général, ça aurait fait pas mal moins d'émissions nocives. Et c'est pour ça que je te dis que là, en ce moment, on est dans une position un peu bizarre où on a encore plein de véhicules polluants. Tu sais, les VUS, c'est con, mais même s'ils sont modernes, même un CX-5 moderne va facilement faire 10 litres au 100 km.
Ouais.
Et il y en a des tonnes, des RAV4 pas hybrides, il y en a des tonnes, des CRV pas hybrides.
Oui, des plus gros, là.
Sont plus lourds.
On a des VUS intermédiaires aussi. Là,
on sait qu'on s'en va vers l'électrification, mais en attendant, c'est juste que ces voitures-là auraient pu être des voitures hybrides rechargeables. Puis ça me fait un petit pincement au cœur de me dire que, tu sais, c'est une occasion.
On a raté cette occasion. Ouais. Voilà. Marc-André, on a notre réalisateur qui pose sa question et qui nous demande si on va voir tous les trois le jour où l'électricité va dépasser l'essence.
Ben, quant à moi, c'est pas une question qui est très difficile, c'est certain. Tous les grands manufacturiers automobiles, tous les grands sans exception, se sont engagés à être 100% électriques d'ici 2030-2040, dépendamment, là. Fait que, tu sais, tant si longtemps que je fais...
Donc, si on vit assez vieux...
Assez vieux. Si je me rends dans la soixantaine, ben, je m'attends à le voir. Est-ce qu'il risque d'avoir un changement d'ici là? Je sais pas. Là, tu sais, il y a du monde qui parle de carburant alternatif. Il y a Toyota qui s'est mis à faire un moteur qui brûle l'hydrogène plutôt qu'en faire de l'électricité, là. Ils mettent de l'hydrogène dans les cylindres pour faire des explosions. Apparemment, c'est super économique, puis ça pollue pas. Est-ce que une technologie bizarre va survenir de nulle part, remplacer tout ça? À mon avis, c'est peu plausible. Je pense vraiment que l'électricité va prendre la place.
Et on a fait le choix comme société aussi,
ben oui, aussi.
De prendre cette direction-là et de bâtir les infrastructures nécessaires.
Oui, quant à moi, c'est ça que je vous dis. Si je devais parier, ça serait forcément là-dessus. Je crois vraiment à l'avenir de la voiture électrique. Est-ce que c'est la meilleure solution partout? Non, pas en termes de pollution. Mais encore là, c'est ça qui est fascinant avec ce sujet-là. Tu pourrais avoir 5 intervenants, 5 experts, tout le monde aurait une opinion différente. Les gens ultra convaincus vont te sortir des arguments. Les gens sceptiques vont avoir d'aussi bons arguments quant à moi. La vérité, oui, comme d'habitude, est toujours au milieu de tout ça. La vérité, c'est que le consommateur va faire le changement quand ça va faire aucune différence pour lui. Quand il va pouvoir se procurer, encore une fois, un RAV4, un CRV, ou peu importe quel VUS il veut, que son char électrique va être le même prix que son voiture à essence.
Et que l'utilisation coûtera pas plus cher,
exact.
Pas moins cher, et qu'au bout de la semaine, ça lui coûte le même prix.
Et surtout, que ça sera pas plus compliqué, qu'il n'y aura pas à planifier et penser ses déplacements en fonction de est-ce que je me rends. Ce que je vivais avec la Mini dont je te parlais en introduction.
Cette foutue
à 177 km, c'était pas, je vais me rendre là, c'était, OK, est-ce que je peux me rendre là? Si je veux aller là après, est-ce qu'il faut que je fasse un arrêt ici? Tu sais, c'est tout ça à considérer. Donc, je pense qu'on s'en va vers des voitures qui vont enlever ce stress-là. Donc, oui, on devrait le voir, monsieur le réalisateur. Peut-être pas dans 2 ans, mais je pense d'ici 10, 15, 20 ans, là, ça, on va être rendu pas mal là. En finissant, Germain, j'ai une petite question à te poser. Tu sais que l'hybride rechargeable, il y a beaucoup de volets sportifs. Hein? Il y a beaucoup de voitures sportives, des plus conceptuelles ou plus haut de gamme qui ont, je pense à la Polestar 1, par exemple, qui a cette technologie-là. Mais si je te permettais
même de dans le plus haut de gamme, on a des Ferrari, la Ferrari, par exemple, qui font appel à l'électricité
Porsche 918, Spiders, puis même la McLaren P1. Oui. Ma question, c'est de savoir si toi, demain matin, tu peux prendre une sportive, pas obligé d'être une grosse affaire, ça peut être une Golf GTI, la rendre hybride rechargeable, ce serait laquelle? Puis combien d'autonomie t'aimerais avoir?
C'est une excellente question. On a un peu débattu un peu plus tôt sur l'autonomie. Effectivement, pour moi, là, entre 80 et 100 km, c'est absolument suffisant pour une hybride rechargeable. Et je pense que tu as un peu donné la réponse en posant la question. Une voiture compacte chez Volkswagen, que ce soit la GTI ou la Golf R, peut-être même la Golf R, pour la rendre encore plus radicale, profiter des quatre roues motrices comme c'est le cas présentement, je pense que ce serait exceptionnel.
Tu vois, c'est la petite Mini que j'avais. Je reviens à cette voiture-là, parce que je l'ai bien aimée. Si cette voiture-là avait été comme ça, hybride rechargeable, 100 km d'autonomie,
le reste... Et ensuite, le moteur à essence qui embarque.
J'aurais capoté. Tu aurais pu prendre le petit moteur turbo qu'ils mettent dans la Mini S, de toute façon, ajouter des batteries à ça. On aurait eu un produit, quant à moi, qui aurait été pratiquement parfait, tu sais.
Ouais, on est loin du compromis, comme on pourrait le croire. Ouais, on est bien plus loin.
C'est ça que j'aurais aimé voir. Puis, mais bon, je pense quand même que l'avenir est positif. C'est juste qu'en attendant, faut souffrir un peu.
Merci d'avoir été des nôtres. C'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyer, à l'animation.
C'était Philippe Séguin, à la réalisation, au montage et à la musique, mais aidé de Rémi Poitras, le stagiaire.
C'était une production
Cube Radio.